Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La vidéo y tourne sur les réseaux sociaux. On y voit un policier tirer sur le conducteur d'une voiture volée alors qu'elle est à l'arrêt. C'était hier après-midi à Nice. Le chauffeur est décédé, le policier en garde à vue. On y revient en détail dès le début du journal. Le Conseil national de la refondation s'est ouvert à huis clos ce matin. Pas le grand raout attendu, mais il pourrait déboucher sur un référendum, a fait savoir le président. Plus d'arrêts maladie aujourd'hui qu'avant le Covid et surtout pour des problèmes psychologiques. Mais qu'est-ce qui va si mal au travail? On en parle après le journal.
RTL plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part faire les vendanges dans le Saint-Émilion.
Yes!
À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Bonjour les septembristes. Ils partent en vacances quand les autres retrouvent le chemin du bureau. Et s'ils avaient raison. Enfin, juste avant 13h LVT Midi, les confidences de Benjamin Biolay, le patron de la chanson française, sort son 10e album. La chanson du jour sur RTL.fr. Le travail est-il pour vous une priorité?
C'est une question importante, effectivement, à laquelle les uns et les autres pourront répondre. Plus de 4 salariés sur 10 est en arrêt de maladie ces temps-ci. Donc vous pourrez réagir sur ces sujets entre 13h et 14h30, comme sur les confessions intimes du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
Mais avant ça, la météo avec vous, Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, gris?
Oui, gris pour quasiment tout le monde. Averse pour l'ouest et le nord du pays. Un temps sec, un chouïa plus lumineux, ça c'est pour le sud-est.
Merci Céline. Une météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Le policier qui a tué hier après-midi le conducteur d'une voiture volée à Nice est toujours en garde à vue. Et c'est la question de l'usage de l'arme qui est au cœur de l'enquête ouverte par le parquet. Tout ça alors que des vidéos de la scène ont été diffusées, largement relayées sur les réseaux sociaux. Bonjour Thomas Proto.
Bonjour.
Des images donc sur lesquelles on voit le policier dégainer son arme alors que la voiture est immobile.
Oui, des vidéos prises par des riverains. Vous entendez ici la sirène des policiers et les bruits de moteur. La séquence ne laisse effectivement aucun doute lorsque le gardien de la paix tire à une reprise sur le véhicule des fuyards. Celui-ci ne bouge pratiquement pas. C'est la voiture de police qui, au contraire, vient à son contact. Le conducteur est mortellement touché. L'autre policier sort de la voiture à son tour et fait sortir le passager qui se rend les mains en l'air.
Il y a aussi ce qu'on ne voit pas sur les images.
Oui, parce qu'avant cette séquence, il y avait une course-poursuite sur les voies rapides de Nice. Les policiers avaient repéré le véhicule volé et ses occupants qui avaient refusé de s'arrêter. La chasse s'est continuée jusqu'à un quartier d'habitation où les fuyards auraient embouti le véhicule de patrouille pour échapper à l'interpellation. C'est à ce moment-là que l'un des deux gardiens de la paix est sorti pour sommer le conducteur de descendre du véhicule avant de tirer.
Et maintenant, Thomas, qu'est-ce qui attend ce policier? Est-ce qu'il peut être poursuivi?
Alors, vous le disiez, pour l'heure, il est toujours en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. Procédure quasi automatique après un tir mortel, on le souligne, sauf quand la légitime défense ne fait absolument aucun doute. Les enquêteurs entendent les explications du jeune gardien de la paix de 23 ans. C'est à l'issue de cette audition que la justice décidera d'éventuelles poursuites qui peuvent aller jusqu'à une mise en examen pour homicide volontaire. Ça a été le cas, souvenez-vous, en avril dernier, lorsque deux frères ont été abattus pour un policier à Paris sur le Pont Neuf. Cette année 2022 est d'ores et déjà une année record. 10 tirs mortels de policiers à l'issue de refus d'obtempérer contre 2 seulement pour toute l'année dernière.
Mais c'est vrai qu'il y a plus de refus d'obtempérer qu'il n'y avait avant.
Il y en a plus, mais en proportion, les tirs mortels sont x5, donc on n'est pas du tout... On a un phénomène qui est très spécifique et qui pose question, notamment aux responsables policiers aussi.
Merci beaucoup Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL.
Le grand moment annoncé a finalement eu lieu et il a lieu à huis clos. Le CNR, le Conseil National de la Refondation, s'est ouvert ce matin.
À Marcoussi, oui, dans le fief du 15 de France, et cela à un an jour pour jour du début du Mondial. Et l'on ne peut pas dire que l'essai soit déjà transformé. Pour le président de la République, les oppositions et plusieurs syndicats ont décliné l'invitation. Emmanuel Macron estime qu'ils ont tort, mais précise que la porte reste ouverte. Quant aux conclusions attendues de ces échanges qui dureront plusieurs mois, le chef de l'État n'exclut rien, pas même un référendum.
La Constitution prévoit pour le président de la République la possibilité, dans un champ qui est défini par l'article 11, de porter des propositions, des textes au référendum. Si le processus que nous lançons aujourd'hui permet de découler sur cela, nous le ferons. Pour moi, c'est à nouveau une innovation démocratique, mais c'est surtout une méthode pour travailler ensemble. Les problèmes que nous avons à régler sont de plus en plus complexes et de plus en plus importants. Et on le voit bien, on a besoin de mettre tout le monde autour de la table. Donc je pense que c'est une méthode plus efficace.
Un propos recueilli pour RTL par Thomas Després. Sur les masques, nous nous sommes trompés. Le mea culpa est signé Olivier Véran, l'ex-ministre de la Santé, qui revient sur sa gestion de la crise du Covid dans un livre « Par-delà les vagues ». L'occasion de présenter donc des excuses. Olivier Véran assure qu'à aucun moment le gouvernement n'a sciemment menti sur le sujet des masques, mais qu'il s'est simplement trompé, ni plus ni moins.
C'est une galère quotidienne, un handicap invisible, souvent caché. L'illettrisme touche en France 2,5 millions d'adultes.
Et parmi eux, évidemment, des gens qui travaillent. Alors cette année, les journées nationales de lutte contre l'illettrisme qui s'ouvrent aujourd'hui veulent aussi sensibiliser les entreprises pour qu'elles accompagnent ceux qui, comme Anthony, trentenaire et agent de restauration, osent demander de l'aide et des formations.
Au début, ça a été dur parce qu'il fallait reprendre le niveau de base. Mais maintenant, j'écris. C'est un énorme plaisir, j'écris. Je cherche même plus comment ça s'écrit parce que je sais comment s'écrit le mot. Je sais reconnaître un adjectif, je sais reconnaître un démonstratif, un pluriel, un singulier. Je sais faire plein de trucs que je ne faisais pas avant. Des grandes victoires, parce que bon, bah, au début, c'était dur. Donc, je suis émerveillé quand j'écris un texto, quand je compte, quand je vais à la caisse, remplir un papier, je dis, aïe, j'y suis arrivé. Il y a plein de trucs qui sont débloqués maintenant que je ne faisais pas avant. J'ai pris énormément confiance en moi.
Dans votre entreprise, dans d'autres entreprises, il y a probablement des gens qui n'osent pas, hein, qui préfèrent que ça se sache pas, ne pas le montrer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Bah, faut foncer. Même si on a peur, faut le faire. C'est dur, mais il est jamais trop tard. De toute façon, on peut pas rester indéfiniment comme ça. C'est pas possible.
Donc, témoignage recueilli pour RTL par Marie Guerrier. La Banque de France prévoit une croissance de 0,3% au troisième trimestre, 0,3% par rapport au trimestre précédent. L'activité continue globalement de résister, d'après la Banque centrale.
À l'heure de la rentrée, eux prennent le large. Ce sont les septembristes.
Oui, ceux qui partent en vacances à l'heure où la majorité reprend le chemin du bureau. Et ils sont nombreux, hein, vacances moins chères, sans la foule. Christian Panvert, vous êtes allé à leur rencontre dans le camping de la Mignardère à Ballan-Miret, c'est en Touraine. Et à les écouter, il n'y a que des avantages à partir en septembre.
Oui, beaucoup d'avantages en tout cas. J'ai croisé des couples sans enfants, des jeunes dégagés de toute contrainte salariale, des auto-entrepreneurs et bien sûr pas mal de retraités, mais pas que. Laurent, 58 ans, vient des Pyrénées-Orientales avec sa compagne Cathy, 43 ans.
Ah oui, nous les enfants sont grands, donc c'est bon maintenant, c'est septembre, comme ça on est au calme, il y a moins de monde sur les routes, les campings sont moins chers, tout est moins cher.
Il y a la rentrée des classes, du coup les parents sont au travail, les enfants sont à l'école, ça nous permet de profiter un maximum pour un budget raisonnable. Après, on côtoie des étrangers, ce qui permet de se croiser, du coup, de parler d'autres langues que notre langue, puisque moi, je parle un peu allemand et en anglais.
Mais c'est bien, on apprend à se connaître.
Francis Cowell est le gérant du camping de la Mignardière. Il n'a jamais vu autant de septembristes.
Hier, ça a été une journée assez surprenante. On a fait plus d'arrivées que de départs, alors que normalement, à cette période-là, c'est souvent le contraire.
Il parle d'une clientèle qui a plus de temps et qui est aussi beaucoup plus détendue.
Reportage de Christian Panvert en Touraine pour RTL.
Alors que pèsent ces septembristes dans l'économie du tourisme? Partir comme ça à la rentrée est si intéressant financièrement pour les vacanciers? On y revient dans RTL Midi, votre vie d'ici un petit quart d'heure.
Le foot et l'OM réduit à 10 qui a fini par craquer hier sur la pelouse des Anglais de Tottenham. Défaite 2-0 pour les Marseillais en Ligue des Champions. Et puis ce soir, toujours en football, c'est la Ligue Europe qui débute à 18h45. Rennes affronte sur leur terrain les Chypriotes de Larnaca. À 21h, Monaco ira défier l'étoile rouge de Belgrade alors que Nantes recevra l'Olympiakos. Ce sera à suivre évidemment en fil rouge sur RTL.
Grand retour de Nantes en Coupe d'Europe, ce n'était plus arrivé depuis 2001.
Et on va se régaler. Avant ça, on se régale.
Si vous le dites.
J'espère. On se régale avec vous, Céline Dacosta, comme promis. La météo pour cet après-midi, encore des averses orageuses. Hein.
Voilà, on se régale si on aime la pluie. Avec cette perturbation qui nous arrive des îles britanniques. Moi, j'aime la pluie, par exemple. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais
on aime
plutôt
tous la pluie.
Quand
on
aime
la pluie, le vent, le soleil.
On a cette perturbation.
C'est ça qui est beau, la neige aussi.
Oui, aussi, qui nous arrive. Donc, cette perturbation des îles britanniques, elle apporte des averses fréquentes, parfois orageuses, près de la Manche, toute l'après-midi. Aussi, un vent frais hein, qu'on a bien senti, puisqu'on va le retrouver, ce vent au-dessus d'une ligne Gironde Grand Est, là où le ciel sera plus mitigé. Alternance de nuages, averses et éclaircies. Pour les régions les plus au sud et le flanc est, un temps sec, plus calme, avec un ciel voilé. Les températures en baisse, je vous l'ai dit, mais de saison, 20 à 24 degrés sur la moitié nord, 25 à 29 pour la moitié sud. Un petit peu plus chaud près de la Méditerranée, puisqu'on attend encore 32 degrés à Nice.
Merci, Céline. Céline.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, effectivement, un jour chez vous. Chaque jour, l'info au plus près de vous, précisément.
Avec nos correspondants qui quadrillent la France. Et aujourd'hui, direction la Gironde, où l'on retrouve Denis Grandjou. Bonjour Denis.
Bonjour Céline, bonjour Pascal.
Denis,
bonjour.
Au milieu des vignes, hein, ce midi, puisque vous attaquez les vendanges du Saint-Émilion.
Exactement, au milieu des vignes, celle de François d'Espagne. Alors il m'a confié qu'il disposait de 164 464 pieds de vignes. Les raisins sont vraiment magnifiques et dans les rangs, forcément, c'est la grande animation. Je viens de rencontrer d'abord Mohamed.
Ça fait 13 ans que je viens à peu près. Ah, c'est très physique. Ah, c'est très physique parce que nous, on fait pas mal de route. On prend deux rangs chacun et on porte les raisins.
Le poids, ça varie dans les 30 kilos à peu près.
Et pour que Mohamed puisse mettre des raisins dans son panier, eh bien, il faut que Bénédicte les coupe avec un sécateur. Enfin, pas tout à fait un sécateur.
C'est une petite épinette, c'est pas un sécateur parce que le bout est rond.
Ah.
Pour pas percer les grains. Ça ne pique pas les grains. Le raisin, c'est important que le grain soit entier.
Il faut qu'il soit parfait.
Eh bien oui, parce qu'on récupère le jus après, hein. Le jus, c'est le vin.
Et oui, et donc c'est l'épinette. Et toute l'équipe des 30 vendangeurs s'apprête à faire la pause de midi. Ils sont juste à côté de moi, alors que le ciel menace ici. La pluie n'est vraiment pas très loin.
Et ici, les Virandarges, évidemment, c'est une longue histoire de famille. Peut-être que les arrière-grands-parents pressaient le vin avec les pieds nus dans la cuve.
Alors, je n'ai pas les photos, Pascal, mais c'est sûr qu'à Saint-Émilion, globalement, on vendange depuis le XIIe siècle. Alors, dans la famille de François d'Espagne, c'est tout de même un petit peu plus récent, mais ça commence à dater aussi.
Ah, ici, moi, c'est une propriété familiale. Nous, ça fait 210 ans, hein, même on peut dire pour être exact, c'est 212e millésime de ma famille d'Espagne, ici, sur le terroir de Grand Corbin. C'est une longue histoire. Moi, je suis la 7e génération et je souhaite qu'il y en ait une par la suite. C'est important, cet attachement à cette terre où mes parents, mes arrière-grands-parents sont arrivés juste après la Révolution française en 1812. Toute l'année, je suis en culture biologique en plus, j'ai un peu la boule au ventre, on a peur des accidents, les aléas climatiques que tout le monde connaît, le gel, le grêle et tout ce qui peut arriver. Et c'est vrai que quand le raisin est récolté, il arrive dans la cuve. À chaque fois, moi, j'en ai quasiment les larmes aux yeux. C'est un grand moment d'émotion.
Et le vin de François d'Espagne est un grand cru classé depuis plus de 70 ans.
Merci beaucoup Denis Grandjou et bonne dégustation si vous y avez droit.
Bonne à votre santé. Merci Denis. Ben oui.
Je peux juste vous dire un petit quelque chose. Est-ce que vous connaissez un peu le paradoxe de Saint-Émilion ? Saint-Émilion, c'était un moine breton. Il avait une particularité, donc il a fondé le village, mais le problème, c'est qu'il détestait le vin. Donc s'il serait venu aujourd'hui, il ne comprendrait pas bien ce qui se passe ici.
Merci Denis. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et dans un instant, on va parler, et ça ne nous concerne pas Denis, plus de 4 salariés sur 10 ont un arrêt maladie ou ont produit un arrêt de maladie cette année. Et souvent pour des raisons psychologiques. C'est ça qui est le plus étonnant. Donc on en parle avec Martial You qui est arrivé avec des bretelles. A tout de suite.
RTL pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Des arrêts maladie en pagaille.
Les personnels n'en peuvent plus, les arrêts maladie sont massifs.
Des arrêts maladie qui se multiplient.
Les arrêts maladie ont été multipliés par 7. Les agences intérim n'ont jamais été aussi sollicitées.
42% des salariés ont eu un arrêt de travail cette année. Un arrêt maladie, c'est plus qu'avant le Covid. Et les motifs de ces arrêts ont changé. Plus de déprime, plus de problèmes psychologiques. Bonjour Martial You.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service économie et social d'RTL. Vous avez planché sur cette question. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire de nos sociétés ? On vit moins bien le travail aujourd'hui ?
Disons qu'on s'interroge plus. Il y a eu le Covid, il y a eu les confinements notamment, qui nous ont poussés à réfléchir au sens de notre vie, à la place du travail dans cette vie. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'avant le Covid, vous aviez majoritairement, en tout cas, des maladies dites musculaires, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. C'est ces maladies liées au fait de faire toujours le même gestes et donc d'en avoir une souffrance physique. Là, aujourd'hui, post-Covid, en quelques années, ce sont les maladies psychologiques qui ont pris le dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement on s'interroge sur le sens de son travail, on commence par souffrir de ne pas comprendre ce qu'on fait dans l'organisation globale de l'entreprise, et on finit par démissionner. Je rappelle quand même que ça, c'est un des vrais phénomènes de ces derniers mois aussi. Entre janvier et juin de cette année en France, vous avez 1 million de personnes qui ont lâché leur CDI. C'est quelque chose qui était inconcevable il y a quelques années, de quitter la sécurité du CDI. Aujourd'hui, on préfère arrêter un travail qui ne nous plaît plus pour aller chercher autre chose, parfois moins bien payé, mais qui en tout cas a du sens.
Alors, il y a une question aussi taboue. Il y a parfois quelques certificats, peut-être, de complaisance avec des gens qui arrivent chez le médecin et qui disent « je me sens fatigué » et puis on te met 15 jours en arrêt de travail. Et
ça arrive parce que dans le baromètre Malakoff Humanis qui a été publié, sur lequel on s'appuie là, il existe depuis 2014, donc ils ont suivi, un tiers des salariés reconnaissent que s'ils pouvaient décrocher un arrêt de travail de complaisance, ils le feraient. Alors qu'ils sont en bonne santé.
Oui, parce que si vous dites, vous arrivez chez le médecin, vous dites, je suis crevé, je suis épuisé, je me sens mal, etc. Bon, il y a des choses parfois qui sont improuvables. Est-ce que tout le monde est concerné de la même manière, les jeunes et les vieux ?
Alors non, tout le monde n'est pas concerné de la même manière. Les jeunes le sont plus que ceux qui ont plus de 50 ans.
Oui, donc ça c'est quand même un drôle de paradoxe, si vous me permettez.
Là, c'est la remise en question de à quoi sert le travail dans ma vie ?
Oui, ah, c'est peut-être aussi qu'ils n'ont pas été formés et que le travail, ben, c'est dur.
Ah ben, non, parce aussi, que peut-être. Lorsque vous avez sûrement des gens qui n'ont pas envie de travailler, mais vous avez surtout, et on le voit avec les jeunes générations, rappelez-vous comment Patrick Pouyanné chez Total Energy a été obligé de dire « moi je suis prêt à faire des semaines de 4 jours pour pouvoir attirer les talents chez lui » parce que justement il proposait autre chose que uniquement le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand je dis cette quête de sens, c'est à quoi je sers ? Le discours qui a quand même été un discours mensonger des entreprises pendant des années, ce qu'on a appelé le greenwashing, c'est-à-dire regarder comme on fait des efforts pour la planète en s'apercevant que rien n'était fait. Moi, je me souviens d'un grand cimentier qui était partenaire du WWF et qui nous mettait un ours blanc sur la banquise alors qu'il était en train de bétonner des
très
des,
vite
des
parce qu'on
mer.
A deux trois questions à vous poser. Est-ce qu'il y a des secteurs plus professionnels, plus
vous avez
que d'autres ?
Tous très ceux vite. Qui étaient les premières lignes du Covid, les premières lignes souffrent aujourd'hui. Ceux où qui s'arrêtent le plus, c'est dans le commerce, d'accord. C'est dans la santé et notamment les femmes aussi, alors, puisque ça c'est très inégalitaire.
Justement,
aussi.
Vous parlez des femmes, une sur deux qui se dit fatiguée, épuisée, ça veut dire qu'il n'y a pas que le travail non plus en cause ou...
Non, il y a la charge mentale, on le sait, mais on s'aperçoit que lorsque vous avez la charge de famille et notamment les mères isolées, vous êtes plus souvent arrêtées au-delà de 60%.
Merci en tout cas, vous êtes matin, midi et soir présent sur Antenne d'RTL, donc tout va bien, la charge mentale, ça se passe
ça
bien.
Ça va, ça se passe bien, j'ai le moral.
Il est 12h19, la pause ?
Et dans un instant, on parlera des septembristes, ceux qui partent en vacances en ce moment, ceux qui ont la chance de prendre le large.
On pourra peut-être écouter Gilles Berbeco, c'est en septembre. A tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi.
RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
c'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage...
C'est en septembre, vous aurez peut-être reconnu la voix de Gilbert Bécaud, septembre, oui. Moi, béni pour certains d'entre vous qui nous écoutez peut-être sur votre lieu de vacances, puisque pour ceux qui ont la chance de partir en vacances après les juilletistes, les aoûtiens, c'est donc au tour des septembristes de profiter de quelques jours de congé, ce qu'on a appelé longtemps le mois des retraités, a beaucoup évolué. Alors pour en parler avec nous, on accueille Jean-Pierre Mas, vous êtes président des entreprises du voyage, bonjour.
Bonjour.
D'abord, quel est le profil des septembristes ? Il n'y a plus que des retraités, c'est ça ?
Ah non, pas du tout. Le profil des septembristes a beaucoup changé au cours des 20 dernières années. Il y a 20 ans, il y avait une pointe de vacances au mois d'août, premier 15 août. Il y avait beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui fermaient, notamment des usines qui fermaient au mois d'août, donc on partait au mois d'août. Et puis cette pointe s'est écrêtée progressivement et même très vite ces dernières années et cette année, elle s'est réétalée sur le mois de juillet et sur le mois de septembre, ce qui fait que les retraités sont repoussés aux périodes qui vont d'octobre, novembre, puis ensuite au printemps.
Est-ce que les lieux de vacances évoluent en fonction des mois ?
Alors, globalement, oui, bien évidemment. Au mois de décembre, on va plutôt au ski ou chercher le soleil lointain. Que,
non, mais en septembre, on va plutôt peut-être en Corse qu'en Bretagne, c'est ce que je voulais dire.
Peut-être un petit peu, c'est-à-dire que la tendance des vacanciers de septembre, c'est quand même d'aller rechercher le soleil, mais globalement, dans notre secteur, on ne constate pas de modification fondamentale entre août et septembre. C'est-à-dire les destinations de septembre, c'est la Grèce, l'Espagne, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, la Turquie, ce sont les destinations de l'été, ce sont les mêmes destinations en septembre qu'en été.
Mais alors si on va au même endroit, est-ce qu'on paye le même prix ou alors est-ce que c'est très intéressant financièrement de partir plutôt en septembre ?
Alors, très intéressant, je ne dirais pas ça. C'est plus intéressant que de partir au mois d'août, mais comme la fréquentation s'est étalée...
C'est moitié moins cher, quand même.
Pas moitié moins cher. C'est moins cher, ah bon, mais pas moitié, non.
C'est-à-dire c'est 30% moins cher ?
Oui, c'est de cet ordre-là. Pour une raison simple, c'est que le transport aérien est au même prix. Mmh. Le transport aérien, lui, ne varie pas considérablement entre le mois d'août et le mois de septembre.
Mais en France, donc, c'est moitié moins cher. Si vous partez en Bretagne, une location en France, c'est moitié moins cher entre la semaine du 15 août et la semaine du 15 septembre. Quand je dis moitié, si ça se trouve, c'est même 70% moins cher.
Oui, je répondais pas à la bonne question. Moi, je vous parlais des vacances plutôt à l'étranger, donc ils sont moins chers, mais pas moitié moins chers. Mais en revanche, en effet, si vous voulez aller en Bretagne ou en Corse ou à Biarritz, c'est beaucoup moins cher et moitié moins cher, voire encore moins, de partir en septembre et surtout la seconde quinzaine de septembre que de partir en août. Il n'y a pas de doute.
Et alors, est-ce que la durée des vacances rallonge ? Je veux dire, si c'est deux fois moins cher, est-ce que les septembristes partent deux fois plus longtemps ?
Alors, les septembristes consommeront cette année un budget plus important qu'en 2019 pour leurs vacances. Et une des raisons de la consommation, de la croissance de ce budget, c'est l'allongement de la durée des séjours. Et on constate pour cette année, la durée moyenne des séjours de septembre sera allongée d'une demi-journée.
Monsieur Mas, vous êtes président des entreprises de voyage. Il n'y a pas d'octobristes ? Après, on rentre dans le cycle classique de la saison, si j'ose dire.
Après, au mois d'octobre, on ne retrouvera peut-être que les professionnels du voyage qui sont dans des zones touristiques qui ne sont pas encore fermées en septembre et qui, eux, partent en octobre. Mais il n'y a pas d'octobristes, il y a des septembristes à coup sûr. Mmh. Et en octobre, on retrouve les vacanciers, plutôt les vacanciers retraités.
Et après, on attend la Toussaint, alors ?
Et les vacances de Toussaint qui arrivent très vite, elles sont dans la deuxième quinzaine d'octobre.
Bien sûr, et puis après, ce sera Noël, Monsieur Mas.
Et j'espère que ce sera Noël après les vacances de Toussaint.
Bon, merci en tout cas. Merci. Alors, les septembristes qui nous écoutent, on les salue. Ils ont bien de la chance parce qu'effectivement, les plages... D'abord, il fait beau cette année, donc c'est plutôt agréable. Et puis, les plages sont un peu plus clairsemées, notamment dans le sud de la France. C'est aussi agréable. Il est 12h27. On va rappeler les grands titres et écouter le journal à 12h30. Et puis, nous continuons ensemble cette tranche d'informations jusqu'à 13h. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi.
Le 12-30.
Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Les absents ont tort. Malgré un lancement à huis clos, Emmanuel Macron défend son CNR, le Conseil National de la Refondation, qui s'est ouvert ce matin et qui pourrait, selon lui, déboucher sur un référendum. Le policier qui a tué le conducteur d'une voiture volée hier après-midi à Nice est toujours en garde à vue. La question de l'usage de son arme est au cœur de l'enquête. Attention à vos dentifrices, pas forcément bon pour vos dents, ni pour le reste d'ailleurs. 60 millions de consommateurs les a passés au crible et les trois quarts d'entre eux seraient potentiellement dangereux. À 12h40, la justice se penche sur le maintien de l'ordre façon Didier Lallement et la très controversée technique de l'ANAS après la plainte de deux gilets jaunes. On vous explique tout. Votre rendez-vous culture, LVT Midi, à 12h50. Aujourd'hui, Benjamin Biolay à la veille de la sortie de son 10e album. Il nous parlera musique, mais pas que. Il sera aussi question de politique et du mariage de François Hollande. La question du jour sur RTL.fr, le travail est-il pour vous une priorité ?
Et bien évidemment, tous ces sujets, nous pourrons les aborder avec les auditeurs à partir de 13h au 32-10. Nous pourrons évoquer notamment le refus d'obtempérer. Et puis, faut-il légiférer pour s'habiller à l'école, puisqu'on n'a pas le droit de venir par exemple en claquettes chaussettes dans un lycée de Saint-Denis, ce qui est la moindre des choses, on en parlera.
La météo à la fin du journal avec vous, Céline Dacosta. Mais on peut déjà vous dire qu'il y a de la pluie près de la Manche.
Oui, et ça va durer toute la journée, hein, avec même quelques coups de tonnerre. Ce sera plus mitigé pour les autres. La bonne nouvelle, c'est le retour sec pour le sud-est.
Merci, Céline.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Ce n'était pas la foule attendue au départ, tant le gouvernement a essuyé de refus, une partie des syndicats, la totalité de l'opposition. Les absents ont tort à balayer ce matin Emmanuel Macron en ouvrant donc le CNR, le Conseil National de la Refondation. En tout cas, Thomas Després, ce qui est sûr, c'est qu'on est loin de la grand-messe un temps imaginé.
Oui, absolument. La grande table dressée ici en extérieur est finalement un peu plus petite qu'espérée. Seulement une quarantaine d'invités a répondu à l'appel. Ajoutez à cela une poignée de ministres et quelques conseillers. Ce n'est pas la foule des grands jours, mais pour Emmanuel Macron, le boycott de l'opposition ne doit pas venir gâcher sa fête.
Moi, je suis résolument optimiste. Quand on n'est pas là, il ne faut pas après expliquer qu'on n'a pas été consulté ou que c'est trop vertical ou trop ceci ou trop cela.
Alors, parmi les participants, tous ne sont pas des convaincus, loin de là. Il y a encore des sceptiques. La maire de Nantes, Johanna Roland, en fait partie.
Nous allons voir si cette journée marque le début d'une nouvelle étape. Ce qui est certain, c'est que nous ne serons pas là pour faire de la figuration.
Elle attend la fin de la journée pour faire le bilan. Même approche pour le patron du MEDEF, l'un des premiers arrivés ce matin.
Ce que j'espère, moi, c'est que chacun ne viendra pas avec son texte à lire. Ça ne marche que si il y a un peu d'ouverture intellectuelle. Donc, c'est comme dans La vérité, si je mens, je donne sa chance au produit.
Geoffroy Roux de Bézieux, d'humeur taquine tout à l'heure. Alors, j'imagine que vous aimeriez savoir ce qu'ils sont tous en train de se dire là, en ce moment. Moi aussi, mais je vais vous décevoir. Tout est à huis clos, sans journaliste, pas une image n'a fuité. Et pour être sûr que rien ne sorte d'ici ce soir, tous les participants ont dû mettre leur téléphone dans une petite boîte à l'entrée. Et pour ce qui est des thèmes, trois priorités, l'école, la santé, le plein emploi. Et pour compléter les travaux du jour, Emmanuel Macron annonce une grande consultation en ligne, ouverte à tous, lancée la semaine prochaine.
Thomas Després à Marcoussis, donc dans l'Essonne pour RTL.
Pourquoi le policier a-t-il fait usage de son arme? C'est la question au cœur de l'enquête après la mort d'un homme tué par les forces de l'ordre hier après-midi.
Sur une vidéo filmée par un témoin et largement diffusée sur les réseaux sociaux, on voit l'agent tirer en direction du conducteur d'une voiture volée alors que ce véhicule est arrêté. La victime est décédée, le policier, lui, en garde à vue. C'est le 10e tir mortel depuis le début de l'année par des policiers. C'est 5 fois plus que l'an dernier. Alors, comment expliquer une telle multiplication? Thomas Proutot a posé la question à Grégory Joron. Il est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police.
Ça pose question forcément, mais c'est aussi sûrement, et moi forcément je vais avoir peut-être un regard partisan, mais c'est évidemment suite à un, on ne va pas inverser la pyramide des valeurs, quoi, j'ai envie de dire. Ça part très souvent d'une infraction et d'un délit routier qui est en effet le refus d'obtempérer, et ça se termine souvent malheureusement par une mise en danger, encore une fois, des agents de police. La vraie question, c'est pourquoi il y a autant de refus d'obtempérer, c'est pas pourquoi il y a autant de tirs. Reprenons un peu les choses dans le bon ordre, en fait. Donc la vraie question, c'est qu'en effet, à un moment donné, je pense qu'on a une responsabilité de regarder si au niveau tactique ou opérationnel il n'y a pas des évolutions à apporter sur la manière dont on appréhende les véhicules. Ça, c'est, je pense que c'est déjà, j'ose imaginer, en cours au sein de la Direction Générale de la Police Nationale. Moi, ça me semblerait normal de le faire. Mais pour autant, ça ne retire pas, encore une fois, et j'insiste, le fait qu'il ne faut pas inverser les choses. Les collègues qui tirent, malheureusement, c'est parce que leur vie est mise en danger.
Un propos recueilli pour RTL par Thomas Proutot. Un juge d'instruction va enquêter sur les pratiques de maintien de l'ordre de l'ex-préfet de police Didier Lallemand, accusé par 2 gilets jaunes de les avoir mis en danger en utilisant la technique de la NAS pour les empêcher de manifester à Paris. C'était en 2019. Technique abandonnée depuis. On y revient en détail après le journal.
Un autre juge d'instruction va lui se pencher sur le rôle exact de Jean-Christophe Lagarde dans l'affaire des fausses accusations visant le couple insoumis Raquel Garrido et Alexis Corbière.
Oui, en juin dernier, les députés avaient été accusés à tort d'employer et de maltraiter une femme de ménage sans papier. Pure calomnie relayée dans un article du journal Le Point et qui pourrait avoir été alimentée par le dirigeant centriste. Jean-Christophe Lagarde a été placé en garde à vue hier. Il est ressorti sans poursuite à ce stade, mais l'affaire est loin d'être terminée, Cindy Hubert.
Oui, cela ne veut pas dire que Lagarde est blanchi. Au contraire, il pourrait être reconvoqué prochainement, tout comme l'ancien policier accusé également d'avoir été une source. Lui aussi est ressorti sans aucune charge, en tout cas à ce stade. Ce qui est sûr désormais, c'est qu'il y a matière à enquêter, que l'affaire est suffisante suffisamment complexe pour la confier à un juge d'instruction. Le troisième homme, lui, a été déféré ce matin et il pourrait être mis en examen dans la journée. Il s'agit de l'ancien chauffeur de Jean-Christophe Lagarde. Et selon nos informations, l'homme a accepté devant les policiers de s'expliquer sur les faits. Alors, qui a fait quoi dans ce qui ressemble à un complot? Qui a tenté de saborder la campagne des Insoumis? Le juge d'instruction va devoir tenter d'y voir plus clair dans les rôles de chacun, entre l'homme politique, le policier et le journaliste.
Cindy Hubert pour RTL.
En Ukraine, Volodymyr Zelensky assure que ses troupes regagnent du terrain.
Et depuis plusieurs jours déjà, l'armée ukrainienne a lancé une vaste contre-offensive pour reprendre une partie du territoire occupé par les Russes. Et ça sur plusieurs fronts, Émilie Bojard.
Et oui, d'abord autour de Kherson, donc au sud de l'Ukraine. Là-bas, ça fait déjà une dizaine de jours que les Ukrainiens brisent les positions russes et réussissent à reprendre du terrain. Les officiers sur place parlent de débâcle russe, de soldats qui fuient les combats, déboussolés par l'arrivée inattendue des Ukrainiens. Cette contre-offensive a affaibli d'autres lignes de défense russes, notamment au nord-est, près de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. En quelques jours, les soldats ukrainiens ont enfoncé de 15 km les lignes russes, arrivant à la lisière d'une ville de 25 000 habitants qui pourrait être reprise dans les prochaines heures. Succès également un peu plus au sud. Maintenant, autour d'Izioum, les Ukrainiens auraient repris 400 km² ces deux derniers jours. Une contre-offensive donc dont les premiers résultats sont plutôt en encourageant pour l'armée ukrainienne, soutenue par les livraisons d'armes occidentales.
Émilie Bojard du service étranger d'RTL, merci.
RTL Midi. Brossez-vous les dents, c'est important pour vous et pour les autres sans doute. Oui, mais pas avec n'importe quoi.
Non, pas avec n'importe quel dentifrice. 60 millions de consommateurs alertent sur la dangerosité de certains d'entre eux. L'association a passé au crible 12 produits très en vogue dans vos rayons. Et les trois quarts d'entre eux, Agathe Landais, contiennent au moins un ingrédient potentiellement dangereux.
Oui, on trouve par exemple du lauryl sulfate de potassium. Ça sert à faire mousser la pâte un peu plus. Il est présent dans un tiers des dentifrices analysés, sauf qu'il irrite les gencives et les muqueuses. On trouve aussi du triclosane, un perturbateur endocrinien, ainsi que du dioxyde de titane qui rend la pâte plus blanche, comme l'explique Sophie Kwan de 60 millions de consommateurs.
La moitié des dentifrices de notre panel contiennent du dioxyde de titane. Il y a des soupçons de risque cancérogène avec le dioxyde de titane. Il a été interdit récemment dans les produits alimentaires. Et donc on s'étonne que ça n'ait pas été interdit dans les produits cosmétiques et les produits bucco-dentaires.
Au total, sur les 12 dentifrices analysés, seuls 3 ne présentent aucun de ces agents potentiellement dangereux. Pour s'y retrouver, l'association conseille de bien lire la liste des ingrédients de vos dentifrices, de se tourner plutôt vers le bio et également de fuir les gammes de dentifrices au charbon ou qui vous promettent un effet blancheur. Souvent inefficaces, ils risquent en plus de fragiliser votre émail.
On n'a pas le droit de citer de nom, bien sûr.
On évite de citer les marques, mais globalement ce sont que des marques qu'on retrouve dans le commerce, que tout le monde utilise.
Mais dans 60 millions de consommateurs, ces marques sont données.
Tout à fait, vous pouvez vous rendre sur le site de 60 millions, il y aura toute la liste.
Merci beaucoup Agathe Landais. La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa gestion du don du sang par les homosexuels jusqu'en mars dernier et pendant près de 40 ans, les hommes homosexuels en étaient exclus. La CEDH reproche à la France d'avoir conservé pendant des années dans des fichiers informatiques les préférences sexuelles supposées des donneurs de sang.
Une semaine après la rentrée, les établissements scolaires cherchent encore des profs.
Alors pas de chiffres communiqués officiellement, mais ça et là, des trous encore dans les emplois du temps. Alors les rectorats sont à pied d'œuvre. Pour RTL, Marie Guerrier a pu se rendre dans la cellule rentrée du rectorat de Versailles. C'est la plus grosse académie de France et le téléphone y sonne beaucoup.
Cellule d'accueil, bonjour.
Donc il y a une petite cellule composée de chefs d'établissement à la retraite pour répondre aux sollicitations des chefs d'établissement s'il manque un enseignant.
Alors dites-moi, dans quelle discipline?
Moi je suis Isabelle Coelho, je suis chef de service de la division des personnels enseignants sur les questions de recrutement et remplacement des enseignants absents dans le second degré. On n'a pas encore fini, mais je pense qu'on va être à 1200-1300 appels. Et c'est les congés maladie qui arrivent, des congés parentaux qu'on décide de prendre au dernier moment, ou alors des petits blocs à pourvoir. Il peut manquer 6 heures d'enseignement à tel endroit, 5 heures d'enseignement à tel endroit, et je dois coupler tous ces postes-là pour mettre un enseignant à temps plein.
Il y a une carte ici
accroché au mur.
Quatre départements pour l'Académie de Versailles et vous avez l'implantation de chaque établissement qui nous aide justement dans les couplages de ces fameux petits morceaux à pourvoir.
Alors, donc là on voit qu'il manque trois professeurs de philo.
Oui, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, ce sont des petits blocs.
Ah oui, 9h c'est un mi-temps quoi.
Oui, oui. Et 4h40, vous avez vu un petit poste de 4h40. Alors mes gestionnaires sont répartis par discipline, ils ont un vivier de titulaires sur zone de remplacement, un vivier de contractuels et on affecte en fonction des vœux de l'agent, en fonction du lieu d'habitation de l'agent. On va y arriver.
Reportage RTL signé Marie Guerrier. Le foot et l'OM qui a fini par craquer hier en Ligue des Champions. Les Marseillais battus 2-0 par Tottenham. Ce soir, c'est la Ligue Europe qui débute à 18h45. Rennes affronte sur leur terrain les Chypriotes de Larnaca. À 21h, Monaco ira défier l'Étoile Rouge de Belgrade. Nantes reçoit l'Olympiakos. Ce sera à suivre en fil rouge sur RTL. Et puis fin du rêve pour l'équipe de France de volley battue en 5-7 en quart de finale du Mondial par l'Italie. La météo, on vous retrouve Céline Dacosta avec des nouvelles moyennes quand même pour l'après-midi.
Hein. Oui, surtout près de la Manche, hein, puisque c'est là que le ciel sera le plus couvert, avec des averses fréquentes et parfois orageuses. On pourrait même avoir de bons cumuls de pluie hein, sur la basse Normandie ou le Pas-de-Calais. Pour le reste de la moitié nord, c'est plus mitigé. Des averses, mais aussi des éclaircies. Un vent d'ouest bien frais hein, qu'on a déjà bien senti ce matin. Et pour l'Occitanie, la région PACA, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est, là c'est un temps sec avec un ciel voilé toute la journée. Côté température, on perd quelques degrés, la faute à ce vent d'ouest. Hein, surtout 19 degrés pour la plus basse à Cherbourg, 21 à Lille, 22 à Paris, 23 à Orléans ou Besançon. À la fois, on est dans des valeurs de saison. C'est plus doux sur la moitié sud, hein, 25 à 28 degrés et encore chaud près de la Méditerranée, surtout près de la Côte d'Azur où là, on a une moyenne de 30 à 32 degrés encore cet après-midi.
C'est pas mal. Merci Céline.
Alice Moreno du service police-justice est déjà dans ce studio. Dans un instant, un juge se penche sur le maintien de l'ordre version Didier Lallement. La technique de la NAS est mise en cause par deux gilets jaunes. A tout de suite, vous saurez tout.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Calmez-vous, attention!
Scène de manifestation des Gilets jaunes alors que la méthode Didier Lallement est passée au crible par un juge. Le préfet de Paris, qui a quitté ses fonctions, on le rappelle, le 20 juillet dernier, est accusé par deux figures des Gilets jaunes de les avoir mis en danger en les nassant et de les avoir empêchés de manifester fin 2019. Un juge d'instruction va donc enquêter sur ces pratiques de maintien de l'ordre. Pour en parler avec nous, Alice Moreno et Thomas Proto du service police-justice d'RTL. D'abord, Alice, c'est quoi cette technique de NAS qu'on reproche à Didier Lallement? De quoi on parle?
Eh bien, ça consiste tout simplement à contenir la foule à un endroit donné. Les forces de l'ordre peuvent utiliser des lanceurs de balles de défense ou des grenades de désencerclement pour y parvenir. En novembre 2019, cette manifestation qui fait l'objet de plaintes, ils sont environ 5000 gilets jaunes à se rassembler place d'Italie. Le préfet de police s'invite en personne à l'événement et annonce qu'il annule la manifestation alors même qu'elle a déjà commencé. Il ordonne dans la foulée aux policiers de mettre en place cette fameuse NAS. Deux figures des Gilets jaunes ont déposé plainte. Ils dénoncent une entrave à la liberté de manifester, une stratégie qui peut créer de l'insécurité pour les manifestants. En décembre 2020, le parquet de Paris a classé sans suite ce dossier. Aujourd'hui, après une seconde plainte avec constitution de partie civile, un juge d'instruction va donc à l'encontre de la décision de l'ex-procureur de Paris et compte bien mener des investigations afin de savoir si l'emploi de la NAS était proportionné aux événements ce jour-là.
Est-ce la première enquête qui vise l'ancien préfet Didier Lallement ?
Alors écoutez, je suis incapable de vous le dire en l'état, mais il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été ouvertes suite aux manifestations Gilets jaunes qui ont visé des policiers qui participaient au maintien de l'ordre sur les manifestations.
Pour aller plus loin, on est en ligne avec Guillaume Fard, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité. La méthode Lallement est donc mise en cause aujourd'hui par deux figures des Gilets jaunes. La technique de maintien de l'ordre, elle a drastiquement changé depuis ?
Depuis que Didier Lallement a été nommé préfet de police de Paris, en partie. Après, il ne faut pas lui faire porter un chapeau un peu trop grand, ni se prendre près de corriche, mais l'évolution de ce qu'on appelle le schéma national du maintien de l'ordre, d'abord, la réflexion démarre avant que Didier Lallement soit nommé à la préfecture de police de Paris, et elle se poursuit après. Et je rappelle à cet égard que lorsque Didier Lallement est nommé à la préfecture de police de Paris, c'est au mois de mars 2019, et que les événements les plus difficiles en termes de maintien de l'ordre dans le cas des manifestations de Gilets jaunes, je pense au 1er décembre 2018, je pense au 8 décembre 2018, au 5 janvier 2019 et au 16 mars 2019, où le Fouquet est incendié sur l'avenue des Champs-Élysées, évidemment, n'est pas préfet de police de Paris. Il arrive après, a posteriori. Après, il va se distinguer par un style qui est certes plus guerrier, plus martial que celui de son prédécesseur, Michel Delpech. Il va aussi créer ces fameuses brigades de répression de l'action violente motorisées qui roulent en moto dans Paris et qui assurent des missions de maintien de l'ordre. Et donc, ça va le distinguer. Maintenant, le schéma national du maintien de l'ordre, c'est-à-dire la doctrine générale sur la façon dont on pratique le maintien de l'ordre en France, c'est pas lui. C'est au ministère de l'Intérieur. C'est un processus collégial.
Alors, c'est ça qui m'intéresse précisément.
Il ne faut pas reposer tout ça sur un seul homme.
Monsieur Fard.
Qui n'est plus en fonction.
Monsieur Fard, c'est ça qui m'intéresse précisément. Parce que généralement, la justice enquête sur une pratique individuelle défaillante. Par exemple, un tir litigieux de LBD. Là, si j'ai bien compris, on serait sur une enquête pour remettre en cause la politique générale du maintien de l'ordre.
Eh bien, c'est précisément ça qui est surprenant.
Mais bien sûr, et c'est extrêmement surprenant. Je crois que c'est jamais arrivé. C'est parce que c'est pas Monsieur Lallemand qui décide de la politique du maintien de l'ordre. C'est ça que je voudrais comprendre.
Là où c'est doublement surprenant, c'est que le maintien de l'ordre, c'est sans être excessivement technique, c'est de la police administrative. Donc en clair, on n'est pas du tout dans le judiciaire. Ça ne concerne pas les magistrats judiciaires. Et donc en fait, si on voulait contrôler des opérations de maintien de l'ordre, c'est au Conseil d'État de prononcer. D'ailleurs, il s'est déjà prononcé sur la pratique de l'encerclement, précisément. Parce que quand le schéma national du maintien de l'ordre a été rendu public, le Conseil d'État, si vous en souvenez, avait restreint les conditions dans lesquelles on peut recourir à cette technique précisément. Maintenant, là, on a un juge judiciaire qui dit peut-être que M. Lallemand, en tant que personne physique, pourrait être mis en cause pour une pratique du maintien de l'ordre.
Eh bien, merci pour vos explications, M. Fard. Et c'est ce qui nous avait étonné. Un mot de conclusion, peut-être avec M. Proutot.
Oui, juste d'un mot. Cette enquête, elle n'est pas sur l'ensemble du schéma national du maintien de l'ordre. Elle est précisément, c'est une enquête judiciaire. Il y a des gens qui dénoncent une mise en danger d'autrui à un moment donné. Ils ont été enfermés 3 heures, ils se sont sentis mal. Il y a donc une enquête pénale. Et on cherche à enquêter sur la technique qui a été utilisée pile à ce moment-là. Donc la NAS faisant partie du schéma national du maintien de l'ordre. Donc le juge va enquêter sur cette technique policière qui depuis a été suspendue par le Conseil d'État dans cette application-là précisément. Et donc il regarde qu'est-ce qui a créé le risque et potentiellement un danger.
Si cette décision était justifiée à ce moment-là,
ça,
ce jour-là.
Exactement. Mais donc effectivement c'est rare.
Merci
Thomas
beaucoup Thomas.
Couteau, dans
merci
un instant,
Alice.
Benjamin Biolay avec Stephen Bellery. À tout de suite.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal Pro. RTL. Laissez-vous tenter midi.
S'il n'en restait qu'une, ce serait toi si j'ose. J'ai le corps qui fume tous les jours. Puis les marées basses, la même
moi, je suis sur son compte Instagram parce que tous les jours pendant l'été, il chantait des tubes.
De la chanson française.
Exactement. Et j'écoutais tous les jours la chanson qu'il proposait. La culture se met à table tous les jours avec vous, Steven.
Bonjour à tous.
On parle musique, donc, puisque vous êtes là, Steven. Et qu'on aime, comme Pascal, ou un peu moins, comme d'autres, Benjamin Biolay. C'est un des patrons de la chanson française. Plus de 20 ans de carrière, plusieurs disques d'or, une quarantaine de disques réalisés pour d'autres. Le cinéma aussi, avec une trentaine de films. Et donc, ce 10e album qui sort demain.
Oui, c'est un grand cru. Hein. Il arrive 2 ans après Grand Prix, sacré album RTL de l'année. Benjamin Biolay revient en grande forme avec Sinclair. 17 titres inédits dans ce disque sur son précédent opus. On se souvient que Benjamin Biolay s'était interdit un petit peu d'évoquer l'époque, de regarder notre monde. Il disait, sourire aux lèvres, que c'était un disque désengagé. Sur Sinclair, la plume est plus directe, intime, et Bébé nous interpelle aussi sur la crise migratoire. Sinclair, c'est en fait un mont dans la ville de Sète où Biolay a acheté une maison. C'est sa ville repère où il va depuis qu'il est gosse, et de ce mont en haut, il observe la mer Méditerranée. Une vue qui lui a inspiré la chanson La Traversée, extrait en avant-première pour RTL.
La vie, ça craint qu'on l'aime autant. Cette vie de rien qui monte tout le temps. La vie, ça cogne, ça froisse l'épaule. Le sac, la colle, je m'en fous de ce que pensent les autres. Il y a des beaucoup trop riches, des
la baie s'allume. Ce soir encore, la mer va cracher le sang.
J'ai rencontré Benjamin Biolay. Il m'a raconté pourquoi il dédie une chanson aux migrants de la mer Méditerranée.
Je crois que tous les gens qui vivent près de la Méditerranée, surtout dans des ports comme ça, c'est un port très imposant quand même, il y a beaucoup d'échanges commerciaux, etc., sont sensibilisés à ces causes. Moi qui voulais parler de la mer Méditerranée dans cet album, c'était impossible de faire l'impasse sur ce sujet qui est un sujet réel. Si vous réduisez l'échelle, c'est, imaginez une piscine, où vous vous barbotez, vous vous amusez, et à l'autre bout, il y a des gens de la piscine, des gens qui se noient quoi, sur des radeaux de fortune, c'est complètement fou. C'est le même endroit, c'est la même mer Méditerranée dans lequel Emmanuel Macron fait du jet ski à quelques kilomètres, il y a des gens qui se noient, donc c'est très frappant quand on se met à y penser. Et j'avais envie de faire cette chanson sans non plus dénoncer qui que ce soit, c'est factuel. On me demande parfois si c'est une chanson engagée, la réponse est non, parce que...
C'est une chanson humaniste.
C'est une chanson de ce qui se voit humaniste peut-être, mais qui décrit une réalité. Je défie quiconque de me dire c'est pas vrai.
La vie, ça noie des foules de gens qui rêvent d'emplois que ne veulent pas les blancs.
C'est mon avis, ça c'est peut-être la seule phrase où je donne un peu mon avis sur ce sujet, sinon je décris une réalité malheureusement épouvantable.
La vie, ça noie des fous de gens qui rêvent d'emploi, qui veulent pas les blancs.
Il y a toujours une pointe de mélancolie dans l'écriture et dans le rythme de Biolay. Et puis, il y a aussi un peu, souvent, de la politique. Il y a une petite pointe à Emmanuel Macron avec le mot jet ski, par exemple.
Bah, il est assez malin pour ça, Benjamin Biolay. Il adore la politique. Il ne s'est jamais privé de donner son avis. On se souvient aussi qu'il avait clashé le gouvernement pendant la crise, évidemment, de la pandémie, en se disant, voilà, est-ce qu'on est essentiel, non essentiel? Ça l'avait passablement agacé. Benjamin Biolay observe toutefois que le rapport des Français à la politique se tend ces dernières années.
La politique, elle n'est plus du tout à la mode, elle n'est plus du tout appréciée, et c'est à eux de se remettre en question pour savoir à quel point ils pourraient changer, parce que là, il y a un vrai rejet qui s'exprime. Mais l'idéologie, le militantisme a beaucoup, beaucoup progressé, je trouve, chez les jeunes. Ils sont très, très militants, ils sont intéressés par plein de causes, et ils ont envie de participer à plein de combats sociétaux. Et donc, cette future génération de politiques m'intéresse, que je pense que eux vont avoir une maîtrise de l'acte politique, quoi. Enfin, et puis une vraie pensée politique au sens étymologique du terme. Je connais plein de jeunes gens de 17, 20 ans et tout, qui sont très militants, que ce soit féministes mais aussi humanistes, c'est très impressionnant.
D'ailleurs, Steven Benjamin Biolay, c'est un ami intime du couple Gaillet-Hollande.
Oui, le chanteur était même le témoin de Julie Gaillet lors de son mariage avec l'ex-président en juin dernier. Mais de quoi Biolay et François Hollande parlent-ils ?
On parle plus de politique que de Léo Ferré quand même. Ouais. Non, c'est pas du tout interdit. Il n'est pas en fonction actuellement, mais dans sa tête, je pense que c'est un homme d'État. Et c'est quelqu'un qui est très soucieux de l'évolution de la société. Et comme tous les gens qui ont été aux affaires, il y a une forme de frustration de ne pas pouvoir vraiment réfléchir sur le destin des choses. Mais c'est quelqu'un de très, très alerte et qui n'est pas du tout l'air retraité.
Vous dites souvent que vous ne serez pas chanteur toute votre vie. Vous pourriez.
Je dis tellement de conneries. Et puis souvent, je n'aime pas contredire les gens. Alors souvent, on me dit, mais vous voyez faire autre chose? Je dis, bah oui.
Et de la politique, hein? Vous bah présentez oui, à 7 un jour?
À 7? Non, je n'ai pas l'accent. Enfin, je peux l'imiter, mais non. Je sais pas du tout, même en rigolant, ça me fait peur. Parce que c'est une sacrée spirale. Mais c'est très intéressant, la politique, oui.
Sinclair, c'est le nom du nouvel album de Benjamin Biolay qui sort demain.
Et Benjamin Biolay qui sera votre invité dimanche dans Laissez-vous tenter à partir de 9h15. Merci Steven.
Merci Steven, dans quelques instants, c'est vous qui prenez la parole au 3210.
RTL Midi.